Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Money Time.
Bonsoir et bienvenue sur Money Time, l'émission sportive de Prune sur le 92 FM et sur www.prune.net, partout sur la planète. Alors ce soir, Money Time saison 4, épisode 5, avec autour de la table une belle brochette de chroniqueurs et présentation, une fois n'est pas coutume, en musique, avec le globe-trotteur de Money Time. Il se déplace sur toutes les pelouses d'Europe pour voir ses clubs de cœur. C'est Vincent. Salut Vincent, comment que ça va bien? On
ça
t'a perdu.
Nickel, voilà. Je me retrouve sur la pelouse, 6 mois sans match.
La pelouse de l'Atlético, on rappelle à nos auditeurs, tu es un socios de l'Atlético Madrid. Bon alors, où est-ce que tu étais ce week-end, toi, Jean-Marc?
J'étais pas à Saint-Maur comme Vincent. Hein. Moi, j'étais chez moi et je regardais le vélo.
Eh ben, c'est très bien. T'as pas regardé grand-chose ce week-end, a priori. Hein.
Non.
Bon, on va quand même te mettre ta petite musique, c'est pas parti, mais tu vas la voir quand même. Voilà, en hommage à votre pilosité respective.
un petit coup de cœur, parce que tu me demandais mon coup de cœur, à Cléopâtre Darleux qui est revenue en équipe de France et sur le tournoi de la Golden League a fait demi-temps, dont une où elle prend que 6 buts contre le Monténégro. Je suis content de la revoir en bleu.
Ah bah dis donc, t'es déjà dans les infos. Bon, ok, allez, alors on passe à notre troisième chroniqueur à côté de moi. Lui, il a rejoint la team Money Time la semaine dernière. C'est le poids-plume de l'émission, mais ça n'en reste pas un grand sportif, c'est Lucien. Salut Lucien.
Salut à tous.
Alors on va écouter ta musique, tu vas voir, hein, c'était... Kids United, il me semble. Voilà, c'est ce que j'ai choisi pour toi ce soir. Alors, toi, tu étais au Palais des Sports, à la H Arena, hein, et puis tu as fait tes premières armes de commentateur en conf de presse.
C'était génial. Un peu dur à s'imposer au début, et puis après ça a été. Donc c'est une première très bonne expérience.
Eh ben super. Alors, je voulais te demander, quel est ton coup de cœur, toi, cette semaine?
Alors, mon coup de cœur, c'est un joueur de Metz qui s'appelle Nian, qui a 20 ans et qui a marqué un triplé ce week-end.
Eh ben, on y revient très vite.
Il a marqué tous les buts de Metz cette saison.
On y revient très vite dans le Prune Football Club. Et puis, pour terminer, c'est le Benjamin de Money Time qui vient de signer au Mercato, hein, à Prune. J'ai nommé Charles.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors Charles, toi, je t'avais mis, malheureusement, elle n'est pas calée au début. Dalida, il venait d'avoir 18 ans. Bon, je sais que t'en as 19, hein, mais...
Bientôt, pas encore.
Voilà, en plus, alors, on est pile poil dans la chanson. Et puis, j'oublie pas, derrière la console, c'est le Tarantino de Money Time, notre réalisateur Antoine.
Salut tout le monde.
Bon, alors, le sommaire de Money Time. Aujourd'hui, Ligue 1, foot étranger dans le Prune Football Club. Dans Hashtime, il sera temps de parler des matchs face au Barça en Champions League et à Chartres en Lidl Star League. Chasse-patate, c'était les classiques ardennaises, La Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Score en stock avec Vincent, ça sera les résultats des clubs nantais. Pour l'instant, que les féminines, hein, Vincent.
J'ai quelques clubs masculins quand même.
Ouais, et puis on parlera vite fait du NRMV, hein, qui reprend demain d'ailleurs son championnat. Et puis on terminera avec Multizone, Roland Garros, hein, savoir s'il reste des Français en deuxième semaine, et puis un petit peu de top 14, enfin la grosse affiche de la soirée. Un quiz sur les arbitres pour finir, j'espère que vous avez bien révisé les garçons.
Ouais.
Bon, alors, vu que le programme est chargé, on va y aller. Antoine, c'est le Prune Football Club, bien sûr.
Money Time. Le Prune Football Club. FC Nantes, Ligue 1, Champions League, foot étranger et bien plus encore. Le Prune Football Club. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Eh ben, on va commencer avec nous Canaries, Charles, le déplacement des Nantais à Nice à l'Alliance Riviera. C'était vendredi soir.
Non, c'était bien samedi soir.
C'était samedi soir.
Et oui, c'était la 6e journée de Ligue 1. Et pour nos Canaries, bah, ça ne va toujours pas. Une nouvelle défaite pour les Canaries à Nice, 2-1. Ah, ils ont mal débuté avec le carton rouge d'André Girotto à la 3e minute.
Hein. Ouais, ça plombe tous les espoirs, ça.
Ah bah oui, hein, c'est sachant qu'on on le voit bien, hein, c'est pas volontaire, il fait une passe, sa semelle reste sur le San Camara qui coupe sa course, et bon bah l'arbitre en a décidé autrement, effectivement, la semelle est sur le tibia, c'est dangereux.
C'est le deuxième carton rouge qui est pas vraiment volontaire avec le premier de Louza. Hein.
Ah, le sac de Louza était quand même par derrière, c'est différent quand même, là c'est vraiment un geste involontaire totalement, mais bon, l'arbitre en a décidé autrement.
On peut vraiment dire que Breezer a brisé le cours du jeu là.
T'en veux à l'arbitre hein.
Non, j'en veux pas à l'arbitre. C'est vrai que le tacle était quand même dangereux. Il n'y a rien à dire, hein, c'est propre. Après, mettre un rouge à la 3ème minute, ça tue le match. C'est tout.
Mais bon, il est mérité.
Tout à fait. Voilà.
C'est sûr que ça change le cours du match, mais on ne peut pas mettre autre chose qu'un rouge sur cette action. Donc,
Bon, et puis on en arrive à l'ouverture du score pour Nice.
Ah bah oui, c'est Dante sur un corner. Voilà, on est à 10. Le but, c'est de ne pas prendre quand même sur les coups de pied arrêtés, hein, c'est quand même la base hein, quand t'es réduit à 10. Mais bon, Palois a décidé autrement, il se laisse prendre par derrière avec Dante qui couvre la trajectoire et à 5 mètres du but, c'est difficile de l'arrêter pour la fin.
Pas loin des meilleurs Nantais, hein, moi j'ai trouvé.
Ouais. Non, bah oui, il a fait un très bon match, hein, il est très solide hein, depuis quelques années maintenant, mais bon, là sur ce but, il est quasi un peu pour lui, on va dire, c'est comme ça.
Après, il a perdu sa doublette. Hein.
Ah bah oui, Girotto, Palois c'est très solide, hein, mais bon, quand il n'y en a plus un, bah après...
Bon, mais pourtant, il va y avoir l'égalisation
mais
de
oui,
Nantes.
Mais oui, c'est totalement, c'est l'égalisation chanceuse, un peu, comme, qui vient un peu de nulle part, hein, sur un corner.
Penalty fantôme pour toi?
Non, bah...
Il y a main, il n'y a pas main.
Il y a une main, c'est ouais, certain, mais bon, après...
Il y a un doigt, quoi.
Il y a quand même une vraie main. Le bras est en l'air, il saute, il met le bras en l'air. Colomani sur le corner, bah, il la prend de l'épaule, ça rebondit. Après.
Pénalty de compensation, j'ai envie de te dire, après ce qu'il avait sorti l'arbitre à la 3ème minute, peut-être.
Ouais, il y a un peu ça, mais de toute façon, maintenant on le voit très bien, toutes ses mains elles sont sifflées actuellement en Ligue 1. Donc, ouais. Donc forcément, il y avait un pénalty. Louza tire parfaitement, contre-pied, plat du pied, tranquillement. Égalisation de Nantes. Un peu contre le cours du jeu, on va dire, parce qu'ils sont largement dominés hein, face à Nice. Hein.
Et puis les supporters des Canaries croyaient à ce nul, mais non.
Et non, malheureusement, ça n'a pas tenu. Le but de Khéphren Thuram.
Hein, encore un chevelu. Ouais. Hein, deux coupes afro pour marquer dans ce match, un côté niçois. Hein.
Le petit dernier de la famille, hein, Thuram.
Ouais, après Marcus Khéphren.
Ouais, un bel enchaînement, une frappe croisée, ça.
Bon, et c'en était fini des espoirs nantais, hein, une défaite 2-1, pas grand-chose d'autre à faire.
Bah non, parce que de toute façon, offensivement, j'ai vu le match, ils n'arrivent pas à enchaîner 3 passes en contre-attaque, alors que quand t'es réduit à 10, c'est un petit peu le seul truc que tu peux faire, et bon, bah, résultat, ouais, la victoire est logique de Nice, victoire logique de Nice.
Nantes-Thuram, la saison va être compliquée, hein, on va pas se le cacher. Bon, allez, on enchaîne sur un autre match, le match de la soirée, hein, l'Olympico, comme on l'appelle depuis quelques temps.
C'est le match du dimanche soir, l'Olympico entre Lyon et Marseille. Et malheureusement, c'est un terrible match nul, un partout.
Un partout, mais est-ce que tu as vu du spectacle?
L'arbitre? C'est l'arbitre, c'est la VAR qui a permis de faire le spectacle. Parce que...
L'arbitre a fait un très bon match.
Ah non, l'arbitre a
Frappard
fait un très
bon match. Frappard a fait un super match.
C'était Madame Frappard, oui, exactement. Ouais. Moi, je me suis plus posé une question, excusez-moi. Je me suis demandé ce qui se passait dans le cerveau de Payet quand il marque le but à la 15e pour Marseille et qu'il se fait expulser en essayant de casser la jambe de Dubois à la 17e.
Bah non, mais
je pense que ce garçon a une case en moins.
Non, il n'a pas une case en moins, mais je pense que c'est un attaquant, il défend mal, il veut juste contrer le ballon, bah, sauf qu'il met le pied en l'air, et puis en l'air, bah, malheureusement, ça va jusqu'à le tibia de Dubois, et carton rouge mérité. Hein.
Ça plombe le match aussi. Hein. Son rouge, ça plombe
rouge
le match
pénalty,
de
c'est là qu'Evauer ouvre le score.
Mais oui, sur un pénalty, Melvin Barr.
Encore un pénalty. Hein.
Mais oui, obtenu par Melvin Barr, le jeune défenseur gauche lyonnais. Il perce sur l'axe gauche de la défense. Il rentre dans la surface de réparation. Alvaro lui touche le pied d'appui alors qu'il allait perdre le ballon. Hein. Ça allait sortir en 6 mètres, mais il touche. Pénalty logique, transformé par Evauer. Mandanda est pas loin de la sortir, mais malheureusement, c'est un peu mieux tiré.
Marseille va réagir. Oui, Marseille va réagir.
Oui,
dans la foulée.
Il risque de faire venir Cuisance, donc ils ont réagi.
Non, mais bah, c'est après. Bah, non, mais c'est surtout que le premier but de Marseille vient un peu à contre-courant du jeu, parce que Lyon dominait largement. Bon, mais ils ont marqué le rouge de Payet, le but d'Aouar. Après, il y a eu le but refusé à Kadewere en fin de première mi-temps. Hein, c'est dommage. Tokyo Kombi, il faut se replacer plus vite, hein, s'il te plaît, la prochaine fois. Mais après, deuxième période, c'est très pauvre offensivement. Hein, ils font énormément de centres.
Ouais, 37 centres.
Il n'y en a quasiment aucun qui vont très peu sur l'eau. Et d'ailleurs, une petite statistique, hein, c'est l'équipe qui tire le plus depuis ce début de championnat en Ligue 1, avec plus de 120 tirs et tout. Déjà, ils n'encadrent pas énormément hein, sur le match, on l'a bien vu. Hein. Et c'est l'équipe, ils marquent 7 buts. Et ils ont mis 4, surtout sur le premier match. Donc, et depuis, ça fait 5 matchs, ils ont mis que 3 buts. Voilà. Offensivement, c'est très pauvre, Lionel Néné. Il faudra se ressaisir, espérant que la venue de Lucas Paqueta anime un peu plus l'offensive lyonnaise.
On a vu deux matchs, ils n'étaient pas les plus spectaculaires, alors on peut peut-être parler de matchs qui ont été spectaculaires, oui Vincent.
Ouais, juste une petite pensée particulière pour Rudy Garcia qui, en sept matchs, n'a toujours pas gagné un Olympico.
Bon, il va peut-être
faire... Il a gagné en Coupe de France.
C'est pas un Olympico.
Olympico, il a raison.
Bon, allez, on va voir ce qui se passe chez les voisins, notamment à Brest. Lucien,
ouais.
Tu voulais nous parler de ce match
Je voulais parler du match Metz-Lorient.
Attends, c'est un voisin aussi.
On va quand même donner du coup le résultat de Brest. Brest qui a battu Monaco 1-0.
Grâce à un but de Romain Fèvre, hein, d'ailleurs, à noter.
Maintenant, on peut parler de Metz-Lorient.
Voilà, Metz-Lorient, donc 3-1 pour Metz. Et en fait, moi, ce qui m'a surpris pendant ce match, agréablement surpris, c'est Nian, donc un petit joueur de 20 ans. Qui a en fait inscrit tous les buts de Metz en championnat depuis le début de la saison. Donc il est à 6 buts. C'est lui qui a marqué tous les buts de Metz à 20 ans. Donc très prometteur. Après, bon voilà, j'espère qu'il ne va pas se brûler les ailes, hein, comme on dit. Mais en tout cas, ça annonce une bonne saison pour lui et pour Metz, hein, j'espère, s'il ne part pas de ce club trop tôt.
Alors, Angers, le voisin angevin, lui a volé en éclat au Parc. Hein,
Il a pris une petite pastille.
6-1.
Ouais,
ce qui permet de dire que Paris revient dans le haut du tableau avec ses 4 victoires de rang. Après, c'est son début chaotique hein, suite aux affaires d'Ibiza, qu'on appellera comme ça.
Et justement, c'est là qu'intervient mon coup de gueule pour moi. C'est Stéphane Moulin.
Ah non, s'il te plaît. Stéphane Moulin. Je ne suis pas d'accord. Ok.
Alors, je le dis, l'entraîneur d'Angers. Voilà. En fait, il a demandé le maillot de Neymar en plein match pour son fils qui voulait absolument avoir le maillot de ce joueur. Donc en plein match, il a demandé à Neymar le maillot. Et moi, je trouve ça complètement fou.
Alors, mais c'est là que je vais te dire pourquoi je ne suis pas d'accord.
Alors, vas-y,
ok, il l'a demandé à 3 minutes de la fin. On ne va pas revenir sur le fait que le match était fait. Mais ce que je n'apprécie pas, c'est le nombre de haters qui réagissent par rapport à ça. Si c'est tout ce qu'ils sont capables de dire sur un match de foot, ça me scandalise.
Non.
Et ce qui me gêne vraiment, c'est que ce soit des journalistes, des médias comme RMC ou l'équipe qui se prétendent être des grands journalistes qui ne savent que relayer ça. Donc, je suis désolé.
C'est parce que Neymar, ça fait vendre du papier.
Non, mais moi,
Jean-Marc,
en fait, ce qui m'énerve, c'est pas tellement Stéphane Moulin en soi. C'est le problème, c'est quoi ? Comment on veut que Neymar ne prennent pas le melon si même des entraîneurs viennent lui demander en plein match son maillot.
Mais il a besoin de prendre le melon, il sait très bien qu'il fait partie des 3 meilleurs joueurs
mondiaux.
Oui,
mais est-ce que ça arrive dans les autres championnats ? Non.
Bien sûr que ça arrive, bien sûr que si.
En Liga, jamais un entraîneur d'une équipe Valence ou Betis Séville ou une autre équipe n'a demandé le maillot à Messi en plein match.
Tu verras que si.
Très bien, pour le maillot de Messi, se battent les gens.
On revient peut-être au jeu, parce que là, on s'éloigne dans les histoires de maillots. On n'est pas là pour parler textile, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on a comme autre résultat de Ligue 1 là, qui vous ont marqué
Lille qui enchaîne bien
contre
Strasbourg 3-0, net et sans bavure. Ils reviennent sur Rennes qui a eux par exemple
accroché
à Reims, enfin chez eux mais contre Reims, 2 buts partout. D'ailleurs, Rafinha, d'ailleurs, celui qui est sur le départ, apparemment il a demandé son départ pour Leeds. Leeds qu'il veut, il a demandé à sa direction de partir. Pour en plus, il a été acheté pour 21 millions et là, ils récupèrent quasiment 22 avec bonus. Mais en attendant, ils font aussi venir la jeune pépite belge de 18 ans, Jonathan Doku, Jérémy.
Et Doku. Juste Lens aussi. Lens qui a gagné 2-0 à Saint-Etienne, qui fait un très très bon début de saison, les promus.
Oui.
Donc à Bollard, hein, ils sont
allés... Attention sur l'agenda du FC Nantes. Hein, donc,
ils ont gagné contre les Verts réduits à 9 après le rouge de Kazri et Kolodziejczak. Donc c'était plus facile de gagner. Et
mais, mais avec les recrues aussi, surtout les recrues font marchent très bien. Kakuta, 4 buts. Kakuta, Ganago, 4 buts. Facundo Medina, 1 but. Non, non, c'est les recrues. Et très bon recrutement de la part de Lens.
Et à noter qu'ils ont inscrit 6 buts à la suite de coups de pied arrêtés en Ligue 1. Là.
Ah bah voilà.
Une équipe bien en place.
Ouais. Pas comme certaines.
On ferme la page Ligue 1, on passe à l'étranger avec toi, mon Lulu. Donc, raconte-nous ce qui s'est passé en première ligue
ce week-end. Déjà, une quatrième journée record, 41 buts marqués dans cette quatrième journée. Donc, c'est énormément de buts. On va commencer par la débâcle de Liverpool, 7-2 à Aston Villa. Triplé de Watkins, un but de McGinn. Un but de Barclay, deux buts de Grealish et pour Liverpool, un doublé quand même de Mohamed Salah. Hein.
Mais qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, je ne sais pas. Alors là, c'est très très compliqué et c'est depuis Arsenal battu à Sunderland 7-1 en 1953. Jamais un champion en titre n'avait concédé 7 buts. Donc c'est quand même... là, Liverpool...
Mais il n'y avait rien dans les buts ?
C'est... Non, mais c'est très très compliqué défensivement. On les reconnaît plus. Vraiment, on voit qu'offensivement, il y a encore, il y a encore de la présence. Hein, quoique là, Sergio Mané n'était pas là parce que à cause du coronavirus. Sadio Mané n'était pas là à cause du coronavirus, ouais. Mais bon, ça ne pardonne pas. Donc 7-2, c'est vraiment très compliqué. Ensuite, on avait.
Ce que je voulais te dire, pardon. Ouais. C'était une première pour Liverpool depuis 1963, et c'était Tottenham qui avait battu Liverpool sur un gros score, 7-2.
D'accord, ouais.
Du coup, tu nous parles de Tottenham.
Du coup, on va rebondir sur Tottenham, ouais. Alors, Tottenham est allé s'imposer à Manchester United 6-1. Donc, très compliqué pour les futurs adversaires du PSG en C1, hein, qui ont encaissé 11 buts en 3 journées de championnat. Pendant le match, il y a quand même eu un rouge pour Martial à la 28e, hein, avec un échange de baffes avec Lamela, un peu sévère, mais
C'est sévère dans un sens où c'est Martial qui prend un rouge et Lamela prend rien. Quoi.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Bah, Lamela lui a bien mis. Hein.
Ouais, pour moi, il aurait dû avoir 2 cartons jaunes, mais bon, après, bon, voilà. Le duo Kane et Son, exceptionnel. Son, c'est tout simplement le co-meilleur buteur de Premier League avec Calvert-Lewin, le joueur d'Everton, à 6 buts. Kane, il est impliqué dans 14 buts lors de ses 7 derniers matchs de Premier League.
Pour un mec qui était buteur de son équipe, il s'avère être un excellent passeur.
8 buts et 6 passes D sur les 7 derniers matchs. Pardon.
En attendant Gareth Bale.
En plus. Avec le trio, ça va plus seulement être le duo Kane-Son. Ça va être Bale, Kane et Son. C'est vraiment très fort. Et en plus, à noter aussi que les Français Ndombele et Aurier et Sissoko ont été très bien relancés par Mourinho, qui est critiqué, mais... qui fait de bonnes choses en ce début de saison. Et par contre, Man United, ils s'enfoncent de plus en plus. Hein. C'est la première fois depuis 1990 qu'ils encaissent 4 buts en première période. Là, avec le Mercato, on parle d'une arrivée de Cavani, mais bon, je pense que ça serait plutôt la défense qu'il faudrait renforcer. Catastrophique.
Bailly fait un match horrible à voir. Maguire, mais il tire la charrette, lui, tous les jours, j'ai l'impression. C'est incroyable.
Ouais. Il fait une grosse boulette déjà sur le premier but.
Totalement. Bah, en plus, Tottenham qui a shippé à Aguilon, hein, United, à la base, il devait peut-être partir à United. Finalement, il allait à Tottenham.
Bon, c'est bon pour le PSG, tout ça. Allez, on termine. Tu voulais nous parler de Bielsa et de
Leeds. Juste un mot sur le Leeds de Marcelo Bielsa, le célèbre entraîneur qu'on a connu, hein, qui est passé à l'OM, à Lille, et qui jouait contre Manchester City de Pep Guardiola. Ça s'est fini sur un match nul, un but partout, un match assez équilibré. On retiendra quand même le duel entre ces coachs, hein, qui se respectent mutuellement. On a pu le voir, Guardiola, dire de très bonnes choses sur Bielsa.
Mais il l'adore. Hein.
Il l'adore, c'est ça. Et un coaching gagnant pour Bielsa, qui a fait rentrer Rodrigo au cours du match et qui a inscrit le but de Leeds.
L'égalisation.
J'y crois bien à Leeds. Merci Lulu. On va passer à l'Allemagne avec ton voisin Vincent.
Et ouais, l'Allemagne où il y a eu 2 gros matchs qui, pour moi, ont été vraiment impressionnants, c'est... dans un premier temps, Dortmund et ensuite le Bayern.
Allez, on commence par Dortmund.
Dortmund, je voulais faire le parallèle avec Tottenham.
Dortmund-Fribourg, si je ne dis pas de bêtises.
Tout à fait. Je voulais faire le parallèle avec Tottenham dans le sens où le binôme Kane-Son fait mal. Mais là, il y a eu un sacré binôme à Dortmund. Je ne sais pas si vous avez vu le match.
J'ai vu le match.
Ouais, moi aussi.
Haaland, Reina, ça fait très très mal. Et là, on est sur des jeunes joueurs, 20 ans et 17 ans.
Ouais, si tu rajoutes Sancho, ça fait une classe biberon prometteuse. Hein.
Voilà, donc très très beau match, très belle victoire de Dortmund.
Ouais, deux buts d'Haaland avec des super appels à chaque fois, une finition remarquable.
Deux buts, un assist et trois assists de Reina. Voilà.
Ouais, le gamin, il va faire parler lui de cette année hein, sur les pelouses allemandes.
Et impressionnant aussi le nombre de passes avec la précision. Ils étaient rendus à 769 passes dans le match.
Pour une précision. T'en fais ton favori pour le titre ou pas ?
Ah non, c'est compliqué. Non,
ça va être compliqué. Non. Mais je pense qu'ils peuvent faire, mal.
Bon, bah, on leur enchaîne sur le favori, favori de la saison.
C'est pas mon favori, non. Mais. C'est pas mon préféré.
Mais,
voilà.
Mais Vincent, tu vas nous en parler. Le Hertha a vraiment embêté énormément le Bayern.
Tout à fait. Donc c'était le Bayern qui recevait le Hertha Berlin. Les Berlinois ne se sont pas laissés faire. Ça, c'était un match impressionnant. Ils ont même mené à la fin 3-2, si je ne dis pas de bêtises.
2-0 et 3-2, ils ont mené tout le match.
Et Lewandowski, donc, qui a achevé tout le monde avec son quadruplé.
Ouais, alors, il y a des buts de renard là-dedans. Hein.
Ah, bah, c'est complètement. Lewandowski après. Hein.
Deux buts de renard, un péno. Bon, ceci dit, la première tête est parfaite.
Tu sais, les buts de renard ou pas, tant que tu n'as pas l'odeur, tu t'en fous.
On fera un quiz sur les renards bientôt.
Après, Lewandowski, c'est un peu son style aussi. Hein. Il marque beaucoup de buts de renard comme ça. Mais
c'est un pur attaquant.
Il est terriblement efficace. C'est un des meilleurs attaquants du monde. Donc.
Ah bah oui, totalement.
Ouais, donc le quadruplé de Lewandowski qui relance le Bayern hein, dans le haut du tableau.
Tiens, d'ailleurs, à noter l'arrivée de Guendouzi au Hertha Berlin aussi, ça, l'international français. Donc ça peut faire du bien au Hertha Berlin parce qu'ils ont fait un bon match contre le Bayern.
Le Hertha, c'est une bonne équipe.
Non, ils ont une bonne équipe.
Début de tableau.
Pour rebondir sur le mercato, donc Hertha, et là pour le Bayern, donc arrivée de Bounassar. Choupo-Moting, gros mercato, hein, Bounassar, Choupo-Moting, ils vont peut-être prendre Douglas Costa.
Ouais aussi, ouais, Douglas
Costa.
Et
j'avais noté l'arrivée de Marc Roya, de
Marc Roca, l'Espagnol, ouais, l'Espagnol Barcelone, ouais, Marc Roca, pour 15 millions.
C'est ça, voilà.
Voilà bon, pourquoi il ne faut pas critiquer la Ligue 1.
4 buts pour le Bayern, 4 buts pour Dortmund, mais il y a une autre équipe qui en a marqué 4, Vincent.
Oui, le Leipzig, ton club de cœur.
Le Rasenballsport Leipzig.
Voilà, donc qui s'est imposé face à une équipe de Schalke qui continue à s'enfoncer. Schalke, je ne sais plus où ils sont là. Enfin, moi,
Schalke, ils sont.
J'ai regardé le match, la défense a été complètement trouée.
Ils vont trouver du pétrole à force de s'enfoncer. Hein.
Ah là, c'est nul quoi. C'est plus fier, c'est nul.
C'est nul tout court.
Nul.
Et Leipzig, futur adversaire du PSG en C1 aussi
ouais,
cette année.
Une équipe qui grandit hein, d'année en année, donc sans forcément casser la tirelire, hein, mais avec des bons recrutements hein, depuis déjà 3 ans.
Ils ont beaucoup de joueurs qui viennent du Salzbourg. Ouais. Salzbourg, ils ont une belle
filière. Ouais, c'est la filière. Ouais, ouais, la filière. Explique-moi pourquoi ils n'ont pas eu Haaland.
Pas faux.
Ah, il a voulu viser
une histoire
haut.
De gros sous. Pourtant, c'était pas des gros sous parce que tu l'aurais proposé à Paris Saint-Germain. C'était pas 40 millions, mais 90.
Mais il a voulu viser plus haut. Et puis après,
c'est Dortmund quand même aussi. Hein. Enfin,
ouais. Non, mais c'est dommage pour Leipzig qu'il soit passé à côté de la pépite de Salzbourg.
Il a peut-être eu raison, Haaland, hein, parce que à Dortmund, là, il fait quand même des choses extraordinaires depuis qu'il est là-bas.
Et ils ont quand même pris énormément d'attaquants au Rasenballsport Leipzig. Ouais. Donc, il avait pas forcément sur le papier directement. Serait plus jaugé alors qu'en arrivant à Dortmund, c'était une place qu'il était assuré.
Avec ce qu'il avait montré en Ligue des Champions,
bien sûr.
Je pense qu'il avait sa place dans tous les clubs.
Ça pouvait poser d'autres questions qui fait que.
C'est sûr.
Ça sera une course à trois avec Dortmund, Bayern et Leipzig hein, cette année en Allemagne, donc on va suivre ça toutes les semaines. En Espagne, il ne s'est pas passé grand-chose, Vincent. Hein.
Non, moi déçu par mon petit nul, mais bon, on commence à reprendre les vieux travers de la saison
dernière. Deux dans la semaine, hein, à Huesca et puis contre Villarreal.
Contre Villarreal, 0-0, ça fait deux clean sheets pour Oblak. Hein. Il est bon pour encore gagner la Zamora.
La Tetica engluée dans le milieu de tableau, la 10e place. Dans le haut, c'est le Real hein, qui fait la course en tête, hein, 10 points, avec ce week-end une réalisation de Benzema, noté. Ah. Hein.
En arrêt de jeu, ouais.
Et puis l'affiche, elle a accouché d'une souris. Hein. FC Barcelone, FC Séville, c'était catastrophique. Hein. À part une lumineuse ouverture de Messi sur le premier but. Hein,
Coutinho,
Avec la frappe de Coutinho.
C'est quand même Rakitic, ancien du Barça, qui vient de se faire lourder, qui marque pour...
Non, c'est De Jong.
De Jong, oui. De Jong.
Pour Séville.
À Séville.
Et Griezmann fait encore un match... catastrophique.
Et en Italie, il y avait le match de la rédaction. C'était l'affiche des clubs engagés en Ligue des Champions, Lazio-Inter. Alors 1-1, mais des regrets, parce que là aussi, je vais vous dire, j'ai vu le match à la 70e. L'arbitre qui sanctionne Immobile pour une caresse sur Vidal. Alors Vidal, ça va bien, il se prend pour Goldorak. Il est déguisé comme dans un manga, mais à peine on l'effleure, il tombe comme une feuille morte. Je trouve ça, encore une fois, scandaleux. Ces attitudes de footballeurs qui tombent comme des danseuses.
Bah, c'est surtout, moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'en fait, Immobile, bah, il est out pour un petit moment.
Ouais, en plus. Donc, il faut arrêter la comédia dell'arte. Allez, il est 19h25, on ferme la page football, Antoine, et on va sur le hand, c'est H-Time.
H-Time, Money Time. Toute l'actualité du HBC Nantes par notre bande d'experts. Débrief, info, interview.
H-Time. Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on attaque avec donc cette troisième journée de Champions League et ça se passait chez nous à la H Arena. Le H recevait le noctuple champion d'Europe, Lucien, le Barça.
Ouais, le Barça, bah du coup on y était, hein, donc défaite 27 à 35 vu que c'était à domicile. Bah, le H du coup n'aura pas réussi à réitérer l'exploit face à Kiel une semaine plus tôt. Hein. En première mi-temps, face à une équipe du Barça avec des joueurs de renommée internationale et bourrés de talent, les joueurs du H se sont montrés trop fragiles défensivement, pas assez d'engagement, pas assez d'agressivité pour aller toucher les artilleurs barcelonais. On a pu voir un Dika même à 3 sur 4 en première mi-temps et Palmarsson à 5 sur 5. Offensivement, outre les quelques fulgurances du demi-centre Ovnisek...
Oh, la filière yougoslave, t'es sévère voilà. Parce qu'il y a Ovnisek à 5 sur 10, Pechmalbek à 5 sur 15
je dit, la
et
relation...
Lazarov à 4 sur 9.
Voilà,
donc...
la relation arrière-pivot plutôt efficace. Mais bon, une première mi-temps où les joueurs du H ont quand même eu beaucoup de mal contre les Barcelonais. Ça fait 18-15 à la pause. Et sans un Nielsen quand même, qui a été plutôt décisif en première mi-temps, ça aurait pu être pire le score quand même, je pense, en première
ouais,
mi-temps.
Ouais, mais en deuxième, il passe à côté. Voilà. Hein, puisqu'il finit à 6 sur 30, donc
totalement, en deuxième, il passe à côté. Et par contre, défensivement, le H a montré un tout autre visage. Plus agressif sur le porteur de balle, plus percutant dans les duels. Mais on a senti en fait une certaine impuissance hein, face au talent des joueurs barcelonais, notamment des Français, hein, Dika même, qui finit le match à 7 buts. Et Fabregas aussi, qu'on a beaucoup plus vu dans cette deuxième mi-temps. Côté Nantais, on pourra quand même regretter le manque de précision de Thibaut Brié, qui finit à 2 sur 7.
Pas en réussite. Hein.
Pourtant étincelant face à Kiel et Ivry. Hein. Et...
Mieux pour le petit de la Bretèche, hein, 18
ouais,
ans.
Ouais, de la Bretèche qui a fait un très bon match. Et par contre, on retiendra aussi la grosse performance du gardien barcelonais Kevin Moller, qui a remplacé le titulaire Pérez de Vargas et qui a littéralement dégoûté les tireurs nantais. 9 sur 20 à 45% d'arrêt. Donc voilà, en fin de match, il a été vraiment décisif. Le H n'a pas été ridicule, mais la marche semblait trop haute.
Ouais,
en fait,
et puis on va écouter Alberto Renterios qui répondait à ta question hein, sur sa défense.
Sa défense, voilà, ouais.
Sa défense en 6-0 qui a pas forcément fonctionné mercredi soir. Antoine, on l'écoute.
Quand tu es mené comme ça, ouais, tu réfléchis à quelques changements que tu peux faire. Hein, après. On met dans la balance ce qui peut marcher bien ou moins bien et on sait que passer sur une défense en 5, à un moment donné, ça va libérer beaucoup d'espace pour des joueurs qui sont vraiment en réussite. Et on n'a pas trouvé non plus qu'on était si mal que ça en défense placée. On a eu un début de match un peu compliqué en défense, mais après, je pense qu'on s'est récupéré. Mais par contre, sur les replis défensifs, on était punis constamment. Donc c'est un peu ça. Après on a je pense qu'on a fait on a su s'accrocher à chaque fois et là quand on a pas lâché parce qu'on n'a pas lâché à aucun moment mais quand on a eu plus de difficultés c'est en deuxième mi-temps quand Moller il a fait des arrêts très très nets et c'est un peu là donc non la défense je pense que même si on peut faire mieux, hein, mais je pense qu'il y a eu de très belles séquences de défense et qu'à un moment donné, dans les rotations qu'on a aujourd'hui, c'est pas très intéressant de s'étager, on va dire comme ça.
Ouais, il avait pas trop l'air déçu, le coach.
Bah non, non, il trouvait qu'il y avait...
Fataliste, bah, voilà, son frangin mais... a gagné, quoi. Voilà, ça, c'est ça. Mais... Hein, dans la
et après, il y a eu quand même des bonnes choses. Et du coup, il fallait vite se remobiliser, hein, parce que hier, les Nantais se déplaçaient à Chartres pour le deuxième match de championnat. Donc, on a senti les Nantais un peu émoussés de leur rencontre face aux ogres barcelonais, hein. Ils ont eu du mal à rentrer dans leur match face à des Chartres très accrocheurs.
Ouais, beaucoup
avec,
de pertes de balles. Hein.
Voilà, notamment Nemanja Ilić, hein, un joueur expérimenté de,
le
du
joueur
championnat.
Le joueur de métalloplastique. Hein.
Voilà.
Ah non, pardon, du côté Chartres.
Du côté Chartres, oui, oui, Nemanja Ilić, oui. Un joueur très expérimenté du championnat de France qui a inscrit beaucoup de buts.
Chartrain, s'il vous plaît.
Chartrain, pardon. 13-13 à la pause. Bah, la seconde mi-temps ressemble un peu à la première. Hein. Deux équipes qui font quasiment jeu égal. Mais c'est bien nos Nantais qui s'imposent sur le fil 24-23 avec un Briet retrouvé, 6 buts, et un Emil Nielsen prodigieux en remplacement de Dumoulin qui avait été un peu juste jusque-là.
4 sur 21. Hein.
Ouais, 56% d'arrêt, ce qui est quand même énorme.
Et Moulin était blessé dans la rencontre Dumoulin, contre ouais. Barcelone, hein. C'était
exactement.
Pas lui numéro 2, donc... Le retour était peut-être précipité c'est pour ça. Cyril.
Mais Nielsen a fait le travail derrière, hein, 56% d'arrêt, c'est énorme. Prochain match en championnat le 7 octobre contre Toulouse à Nantes. Et en Ligue des Champions le 14 octobre à Aalborg. Ils vont se déplacer face au club danois.
Champion
ouais,
du Danemark.
Et qui hein. commence très bien sa campagne avec déjà 3 victoires en 3 journées.
Ouais, donc si on récapitule en Ligue des Champions, le H est 5e hein, derrière un trio donc emmené par Barça, Aalborg et Veszprém.
Et Veszprém.
Qui a 4 points, le H derrière. On rappelle les 6 premiers qualifiés. Bon, par contre, en championnat, hein, c'est le sans faute, 4 points, tout comme voilà. Paris et Nîmes.
De toute façon, les ambitions en championnat, c'est...
La Ligue des Champions.
La Ligue des Champions, et puis pourquoi pas essayer de jouer la première place
totalement.
Pourquoi pas. Après, il y a l'ogre parisien qui est voilà, avec des
ils
joueurs...
Ils l'ont déjà fait, ils ont déjà battu Paris, pourquoi
ils
pas.
Ils l'ont déjà fait.
Mercredi, on l'a dit, sur l'agenda Phoenix-Toulouse, vous y serez les garçons.
Exactement.
Donc,
exactement.
Vous allez voir un peu les progrès depuis Chartres. Hein. Il faut vraiment se bouger, quoi. Et
on
pas laisser passer les points.
Non, il faut prendre les points importants.
Allez, on enchaîne avec le cyclisme, Antoine, c'est chasse-patate.
Chasse-patate. Les grands tours, les grandes classiques et toutes les infos de la saison cycliste. C'est aussi dans Money Time.
Et avec vous les garçons, on va déjà revenir sur la première des deux classiques ardennaises de la semaine. Hein. C'était la Flèche Wallonne du côté de Huy, avec la deuxième victoire en carrière pour Hirschi.
Eh ouais, c'est la victoire de Marc Hirschi en l'absence de Julien Alaphilippe, le double tenant du titre. Le Suisse en a profité, il a réalisé. De toute façon, il est très 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 puissant, très fort, il l'a montré sur le Tour de France.
Tout s'est joué dans la côte de Huy
une échappée quand même qui est partie avec un certain Maury Vansevenant hein, qui chute à 2 km de l'arrivée. C'est
le
terrible.
Jeune belge de 21 ans dont son père est quand même est celui qui a réalisé quand même 3 fois dernier Tour de France hein, à noter hein.
Ah, d'accord.
Non mais il est dommage parce qu'il a chuté un moment et après il s'est fait rattraper
Sur le retour de Huron
ouais sur la dernière descente et tout avant d'arriver sur le mur de Huy, il se fait rattraper par Oran. Et puis après, il se fait rattraper en bas du mur de Huy. Et puis après, ça c'est entre les gros.
Explication dans la difficulté, la dernière difficulté du jour, le mur de Huy. Et là, il y avait quelques favoris.
Hein. Oui, il y avait Michael Woods, Benoît Cosnefroy, Warren Barguil qui était là. Et résultat.
Porte et Pogacar, hein, qui est là aussi.
Porte et Pogacar qui était là. Et résultat, c'est Marc Hirschi qui l'emporte. Ça a été le plus puissant. C'est logique.
Pogacar n'a pas pu démarrer. Hein.
Il a moins de punch que Hirschi. Hein.
Oui, il a tenté un coup, mais il ne l'avait pas dans les jambes. Et moi, ce que j'ai noté vraiment, c'est la belle deuxième place de Benoît Cosnefroy et la quatrième de Warren Barguil.
Les Français étaient là et
deux Français dans le
surtout
top.
Surtout en l'absence de Julien Philippe. Quoi. Mmh. C'était important. Donc, voilà.
Et Hirschi qui confirmait après sa troisième place aux mondiaux. Hein, qu'il était l'homme à battre, c'est ce qui va nous amener jusqu'à la classique de dimanche.
D'ailleurs, c'est une petite info sur Hirschi, il a annoncé d'ailleurs qu'il
mettait fin de carrière,
pas de carrière quand même.
Fin de saison. C'est sa première saison. Fin de carrière. Donc hier, c'était la doyenne Liège-Bastogne-Liège.
Exactement.
Et une course qui a
une course qui s'est débridée tout à la fin, mais quelle finale quand même.
Superbe.
Oh, superbe, je sais pas, mais bon. Là,
on y a cru pour Alaphilippe.
On y a cru pour Alaphilippe. Bah, oui. Après, c'est dans la dernière côte. La Rochefoucauld, les blés plus forts attaquent. Ouais. Avec Alaphilippe qui
un
prend
groupe
un peu
de
4
qui se détache. Hein.
Ouais, Alaphilippe qui attaque, qui prend un peu d'avance, mais il se fait rapidement rattraper par Hirschi, Pogacar, Roglic et Kwiatkowski qui arrive à revenir un peu dans les descentes. Mais après, ça rattaque un petit peu juste dans la remontée, juste avant la redescente vers Liège. Et là, c'est les quatre plus forts étaient là. Roglic, Pogacar, Alaphilippe et Hirschi. Ça s'est joué au sprint. Moritz, d'ailleurs, qui revient dans les derniers 500 mètres.
Qui lance le sprint, au final. Hein.
Ouais,
c'est
mais bah, il arrive lancé.
Ouais,
il est obligé. Il est obligé.
C'est lui qui lance.
On avait l'impression qu'il allait accompagner Alaphilippe jusqu'à la victoire. Bon, et là...
Bah, quand même, il lance Marimo en 2019, quand, finalement. C'était pareil. C'était Moritz qui lançait. C'est Alaphilippe qui suivait. Alaphilippe était allé gagner, mais là, ça n'a pas été le cas. Hein. Alaphilippe qui démarre.
J'ai envie de vous dire, moi, le vainqueur qui lève les bras alors qu'il va finir deuxième, c'est quand même une image qui va faire le tour du monde.
Après, la chance qu'il a, c'est surtout qu'il est déclassé.
Oui, il le dit, de toute façon.
S'il n'était pas déclassé, je pense que là, il s'en serait voulu toute sa vie. Non. Parce que
toi, Julien, pas maintenant,
mais oui,
pas après tout ce que tu as fait.
Ouais, c'est quand même c'est fou. Pirovic en renard qui vient
totalement, un quart de mais hop, il a pris le bon chemin, il a pris à droite. Ouais. Parce que finalement, Alaphilippe, bon, il a dit qu'il n'a pas fait exprès, il s'excuse.
Oui, oui.
Sur Hirschi, qui vient en plus, du coup, Hirschi, il des choses, mais il veut sprinter. Mais en même temps, il gêne Pogacar. Et Roglic, je lui dis hop,
bah, quelque part,
droite,
le résultat du sprint est faussé. Hein.
Ah, bah totalement, parce que finalement, c'est le moins bon sprinteur, entre guillemets, qui l'emporte. Mais c'est logique.
C'est dommage, parce que Alaphilippe, enfin, c'était le meilleur, honnêtement. Là,
ouais,
Non, je suis pas sûr. Je pense que Hirschi l'aurait battu. Sur le sprint,
on sait pas. Finalement,
c'est sûr. On sait pas.
Ça
serait
peut-être jouer un boyau aussi.
Oui, voilà. Mais là, c'est quand même.
Moi, je pense que
Hirschi semblait très fort quand même.
Je pense qu'Alaphilippe avait plus de jus qu'Hirschi, qui avait vraiment fait un tellement. Beau spectacle 3 jours avant, qu'il aurait peut-être pas eu la giclette.
Et d'ailleurs, Roglic revient vachement bien parce que quand
Alaphilippe
fait son attaque, on pense que Roglic va pas suivre et hein, il est derrière. On se dit,
mais ils reviennent avec Pogacar.
Et au final, ils reviennent, mais du coup, c'est quand même de la part de Roglic. C'est quand
non,
même
mais Roglic, la revanche, moi j'ai envie de vous dire, parce que c'est vrai qu'il s'était fait coiffer à la dernière journée sur le Tour de France.
La petite anecdote, c'est le seul qui n'avait pas gagné une course. Pogacar lui avait remporté le Tour de France. Alaphilippe, les championnats du monde, Hirschi l'a fait Jalon. Lui, il n'avait pas encore gagné. Bah, il a gagné le Liège-Bastogne-Liège, la Dauphiné des classiques.
Bah, ça lui fait un monument. Et puis pour Alaphilippe, après un S au mondiaux, double faute pour Alaphilippe.
Bah, faudra attendre soit l'année prochaine.
C'est un peu moche. Moi, j'avais envie de dire aussi 3 Slovènes dans les 4 premiers. Il doit y avoir des bons produits du côté de Ljubljana. Hein.
C'est le premier Slovène à remporter la Dauphiné des classiques, Liège-Bastogne-Liège.
Ok, bon, à suivre. Allez, le résultat de la 3e étape du Giro avec la victoire de Caicedo, le Colombien d'Education First.
Non, Équatorien, champion d'Équateur d'ailleurs. Et oui, qui a remporté. Il était dans l'échappée ce matin et il a réussi à résister au retour du peloton. Et belle victoire pour le jeune Équatorien. À noter d'ailleurs la défaillance de Geraint Thomas qui, après une première chute en tout début d'étape.
Thomas et Simon Yates, tous les deux.
Pour Thomas, c'est qu'il risque peut-être d'abandonner.
Ah, y a de fortes chances. De toute façon, il est arrivé à plus de 10 minutes, enfin quasiment. Il a quasiment vu aucune chance de remporter le Giro. Peut-être qu'il va sans doute abandonner. Simon Yates, lui, n'abandonnera pas parce qu'il n'est pas non plus hyper loin et qu'on sait que Simon Yates peut le faire. Mais ça sera compliqué d'ailleurs. Et du coup, mon petit coup de cœur, c'est João Almeida, le jeune portugais de 22 ans de la Deceuninck Quick-Step.
Qui prend le maillot rose.
Ah, et d'ailleurs, pour quelques centièmes, hein, Jonathan Caicedo, comme d'ailleurs il l'a fait sur la première étape où il conserve à ce moment-là la première place provisoire par rapport au jeune Danois de la UAE Team Emirates. Comment il s'appelle ?
Kasper Asgreen.
Non, pas lui. Il a 22 ans. Comment il s'appelle ? Ah, je ne sais plus. C'est un B quelque chose. Quoi, Berg. C'est bien ça.
Ok.
Et donc il prend, il prend le maillot rose. C'est comme il l'a dit, c'est un rêve pour lui. Hein. Et il conserve aussi du coup le maillot blanc, le meilleur jeune, parce qu'il a 22 ans.
Bon, on va suivre ça. Il reste 2 semaines de course pour le Giro.
C'est pas fini. Du coup, Wilco Kelderman d'ailleurs, qui est un des favoris de l'Aston Webb, qui reprend pas mal de temps, lui, qui revient bien, parce qu'il avait fait. Un très bon contre-la-montre d'ailleurs, comme Nibali.
On en parle la semaine prochaine, on le fait arriver sur le volcan Letnol.
Pour mettre un pas en avant les femmes, quand même, il y a eu la course féminine de Liège-Bastogne-Liège avec Lizzie Deignan, la championne du monde 2015, qui a remporté la 4e édition. de ce Liège-Bastogne-Liège.
Avec une attaque à 30 km de l'arrivée. Là.
Et bah, c'est bien que tu fasses la transition avec les filles. Parce
il y a un Van der Breggen aussi.
On va en parler tout de suite des filles dans Score en Stock. Hein, toute l'actualité des clubs nantais, Antoine.
Money Time. Score en Stock. Résultats, analyse, classement et agenda des clubs nantais. Score en Stock. Money Time. Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et Vincent, on va commencer avec le FC Nantes et ton déplacement à Saint-Maur.
Eh oui, déplacement à Saint-Maur, donc dans le 94, pour aller voir jouer les féminines. Saint-Maur, donc le stade Adolphe Chéron, qui accueillit donc les féminines pour une victoire au final 5-1. Avec une très belle prestation au niveau offensif du FC Nantes.
Ouais, c'est encourageant, hein. Déjà 4 matchs et 4 victoires, 12 sur 12, c'est le max que tu peux faire.
Et donc... c'est la seule équipe dans les deux groupes qui l'a fait.
Et puis surtout, tu étais avec le coach du FC Nantes en zone mixte. On l'écoute, Antoine.
Bonjour Tanguy, aujourd'hui victoire par 5 buts à 1 contre Saint-Maur. Belle victoire, belle composition, la mayonnaise a pris avec les filles, qu'est-ce que t'en penses?
Ouais, bah ça confirme encore une fois la bonne prépa, le bon début de saison, on arrive à enchaîner ce quatrième match là qui nous faisait défaut les années passées. Alors maintenant chaque week-end ça sera de nouveau le même objectif, de pouvoir poursuivre cette série de victoires. Plus on la tiendra, meilleure sera la finalité effectivement. Après, sur la mayonnaise, bah oui, je crois que le groupe travaille bien ensemble, a compris à la fois les objectifs, les enjeux de bien travailler ensemble. Et c'est hyper plaisant de voir au quotidien que le projet structuré depuis 4 ans maintenant s'illustre avec cette équipe-là qui fonctionne bien. Donc rien, c'est pas une finalité, c'est juste la base pour bien travailler.
On a vu des belles combinaisons en attaque avec, par exemple, sur le troisième but qui était vraiment magnifique avec cette transversale et ce retour qui était splendide. Les filles, ça y est, ça commence vraiment à se trouver sur le terrain.
Ouais, alors sur le match, oui, il y a eu des bons moments dans le match. Après, il y en a eu d'autres moins bons. Je pense vraiment, c'est ce que je leur ai dit à la mi-temps, qu'il y avait moyen de faire beaucoup mieux. Et ça doit nous servir ces matchs-là justement on est bien en place, dérouler et travailler pour le futur. Donc voilà, il y a des petites sources d'insatisfaction encore sur un peu de déchets techniques, des ballons perdus, ce petit but pris aussi, voilà, c'est des détails qui compteront dans d'autres matchs, donc voilà, faut viser l'excellence, même sur des week-ends où on a l'impression de maîtriser.
Voilà, enfin bon. Voilà, donc c'était Tanguy Fétiot, l'entraîneur, qui nous répondait après le match. Et effectivement, moi, c'est un match qui a été vraiment très plaisant donc à regarder. Et j'y retourne avec grand plaisir.
Ouais, donc sur l'agenda dimanche, qu'est-ce qu'on a?
Sur l'agenda dimanche, donc les filles jouent contre Vendenheim à la Genolière. Donc match à 15h. Voilà.
Bon, on enchaîne avec le volet et le VBN.
Le VBN, donc le VBN s'est imposé à Vendeuvre 3-1.
Donc, Jean-Marc, une leçon de géographie, Vendeuvre.
À côté de Nancy.
Voilà.
Voilà, et donc ce qui fait qu'ils prennent la deuxième place. 3-7-1.
Hein.
Ouais, 3-7-1.
23-25, 25-18, 25-20, 25-22. Bah, déjà deux matchs, deux victoires pour les passionnantes.
Et donc elles prennent la deuxième place du classement derrière Paris.
Ouais, le prochain match à la maison, hein, ça sera le 17 octobre face à Terville. Fortune diverse pour les filles du basket du NRB, hein. Les déferlantes s'inclinent à La Roche.
Ouais, 85-76, le début de saison commence pas forcément bien.
Alors oui, parce que les joueuses d'Aurélie Bonan, qui n'avaient pas joué le premier match, puisque toute la journée avait été
annulée. Ouais, c'était face à Marc-en-Barreille, hein.
Tout à fait.
Non, ça c'est du volet.
Ah non, c'était le NRB, hein. C'est le match qui a été annulé première journée, hein. Vous deviez y aller, les garçons, d'ailleurs, hein.
D'accord, Villeneuve-d'Ascq. Pas Marc-en-Barreuil, Villeneuve-d'Ascq.
Ah ouais, c'est à côté. C'est à côté. Bon, bah ok.
Un petit cours de géographie, Jean-Marc.
Voilà.
Bon, là, je te l'accorde, c'est presque le même endroit.
Pardon.
La banlieue lilloise pour tout ça.
Allez, d'autres nouvelles de nos clubs. Le NRM, le NR, NRMV présenté son effectif cette semaine à la Trocardière. Vous y étiez, les garçons. Alors, l'objectif du club cette année, qu'est-ce que ça sera, Lucien ?
L'objectif du NRMV, donc qualification en play-off, top 6 en Liga. Des objectifs ambitieux aussi en CEV Cup. Hein. Bon, après, voilà, l'entraîneur dit qu'il prendra match après match, hein, avec un premier match contre Cannes, qui est quand même une grosse équipe. Ils peuvent s'appuyer sur un effectif avec des nouvelles recrues, hein, comme le libéro Steve Perronnet, hein, qui vient de Poitiers, et le réceptionneur attaquant Adam Bartos, qui vient de Tours. Donc voilà, des objectifs plutôt ambitieux pour le NRMV.
Ouais, mais c'est surtout l'important, ce serait de concrétiser une nouvelle saison en faisant aussi bien au moins que l'année dernière, parce qu'il y aurait eu une bonne saison l'année dernière en finissant cinquième du championnat. Donc...
Cinquième avant interruption. Donc ouais, elle n'était pas vraiment terminée, mais en tous les cas, oui, c'est la deuxième fois que Nantes, dans son histoire, va jouer la Coupe d'Europe, la petite bien sûr. Oui. Donc, et ça sera face à un adversaire français, pas de chance. Ouais, c'est Cannes qui sera.
C'est vrai que l'entraîneur nous disait qu'ils avaient très peu de chances de tomber sur un adversaire français, qu'ils avaient déjà préparé tous les déplacements dans tous les coins de l'Europe, et au final, ils se retrouvent contre Cannes.
Le seul qu'ils n'avaient pas préparé d'ailleurs.
Voilà, le seul qu'ils n'avaient pas préparé. Et à noter, leur premier match en Liga à Tours. Donc,
à Tours, c'est demain, on l'a dit.
Une grosse équipe.
Et samedi, Jean-Marc, à 20h, ça sera la réception de Tourcoing à Duga.
Exactement,
Tu y seras. C'est terminé pour nos clubs nantais. Ah. Oui, Vincent, pardon.
Oui, juste pour signaler que les Corsaires se sont imposés face à Poitiers en Coupe de France. Par une victoire 2, donc 10 à 2, ouais, bon, 2-10. Hein. Voilà, et les Corsaires se déplacent à Dunkerque samedi pour le match de championnat.
Ça y est, c'est le premier, c'est
et
le
voilà,
départ.
C'est parti.
Et le premier.
La division. Hein.
Oui, et donc un jour, ça sera le premier match à domicile contre Strasbourg,
l'Étoile Noire. On les suivra, bien sûr, et on espère qu'on aura Martin Lacroix, leur entraîneur, sur notre plateau.
Et aussi également à signaler le premier match de l'Hermine samedi contre Lille en
Pro
B.
On est en Pro B. Parfait. Alors, si on a été complet, on passe au reste de l'actu, Antoine. C'est Multizone.
Money time. Multizone. Tout le reste de l'actualité sportive détaillé par la team. Multizone. Money time. Money time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Et on commence avec le tennis, Roland-Garros, hein, en septembre, c'est inhabituel. Mais pourtant, c'est bien là. Et la révélation, Gaston, alors qu'est-ce qu'il veut en parler hein ?
Bon, je pense tout le monde. Hein.
Eh oui, mais je vais lancer le truc du coup, parce que je regardais le tableau et cette première semaine, ces premiers débuts, les Benoît Paire, tous qui se font éliminer et qui commencent à me saouler. Du coup, je me dis, ça va être encore horrible ce Roland-Garros. Mais heureusement, tout a changé quand j'ai vu Hugo Gaston. Hugo Gaston, qui a sorti un japonais, c'est, je ne l'ai plus en
Nishioka.
Tête.
Nishioka.
Nishioka, voilà, qui était déjà un très bon joueur.
Ah oui.
C'est un petit jeune, je précise, je recadre. Hugo Gaston, il a 20 ans, c'est une wild card.
Il est 240e mondial. Hein.
Et ouais. Voilà. Ouais. Du coup, il sort Nishioka au premier tour. Derrière, il enchaîne avec.
Au premier tour, il est Maxime Janvier.
Voilà, Maxime Janvier, pardon. Premier exploit, voilà, c'est ça que je voulais dire. Il sort Nishioka. Derrière, c'est Stan Wawrinka qui présente. Il lui mange le cerveau. Oui. Il bat en 5-7, je crois.
Triple vainqueur de Grand Chelem, quand même. Hein.
Avec un 6-0, surtout au 5e set.
Voilà, et le vainqueur de 2015. Mm. Et puis derrière, hier, c'était contre Dominic Thiem. Dominic Thiem,
double finaliste de l'épreuve.
Et puis, champion en titre de l'US Open.
L'US Open, vainqueur de l'US Open.
Donc, il est en
Terminator,
très bonne forme.
Terminator, on peut le dire.
Voilà.
Terminator.
Et Dominic Thiem emporte les deux premiers sets, donc on se dit ça risque peut-être d'aller vite.
Mais il fallait savoir qu'il y a un gros mental de guerrier là. Ah, oui.
Puisqu'il remporte le troisième et le quatrième set 6-3. Et derrière, cinquième set face à un des favoris du tournoi.
Là c'est compliqué. Hein. Après. Ouais.
Bon, on a vu.
Il a réalisé un gros match, franchement, il faut le féliciter. Il a 20 ans, c'est son premier gros tournoi comme ça et tout. Et
Il aurait bien pu l'avoir hein, dans le cinquième.
Ouais,
hein,
il était un peu émoussé aussi. Mais...
Il lui manquait du physique. Ouais. Hein,
je pense
clair.
Que ce qui m'a impressionné chez ce joueur-là, déjà, c'est qu'il est, est petit. Il fait 1m73. C'est complètement différent de maintenant, donc la nouvelle génération des tennismen puissant, qui frappe fort, bah, à l'image de Tim, de Zverev, de Medvedev, de Tsitsipas. Enfin voilà, toute la nouvelle génération dont on parle beaucoup, la relève un peu. Alors là, c'est complètement différent. 1m73, souvent sur ses premières balles, moins de 150 km/h au service. Donc pas un gros gros serveur, mais par contre, face à des services à plus de 200 km/h, il rentrait 1 mètre dans le terrain. Enfin, exceptionnel, des amortis maîtrisés à la perfection. Il en a fait 55 il a fait dans le match.
Ah, des amortis comme s'il en pleuvait.
C'est son profil.
Peut-être même un peu peut-être abusé dans le Money Time.
Je pense que c'est ça qui a joué. Peut-être aussi, il en a abusé un petit peu. J'ai regardé sur la fin de match, il y a même sur son service à la fin.
Et il ne pouvait pas rester engagé dans l'échange. Il fallait, couper.
Ça montre le culot de ce gamin, en fait, face à un joueur de ce calibre.
Mais Tim l'a dit.
Il a vraiment. C'est un joueur très complet qui a toute une panoplie de coups, et ça c'est vraiment beau à voir
dans le petit jeu exceptionnel.
Il est encore un peu vert, mais un vent de fraîcheur dans le circuit.
Mais ce qui est fou, c'est que dans 3 semaines, pour lui, c'est un retour à la réalité, parce qu'il va aller repartir au combat dans l'anonymat d'un challenger à Hambourg. Donc ça va lui faire tout drôle de passer.
Il va rentrer pas loin, il doit pas être loin de la 100e place mondiale.
150e là.
Il passe, 150. Ouais. Bon, il reste encore un peu de boulot, mais en tous les cas,
je pense qu'on va le revoir.
Le jeune qui a créé l'exploit, il est encore plus jeune que lui, il a 19 ans, c'est l'Italien Yannick Sinner. Sinner qui a battu Zverev hier et qui affrontera, qui aura le privilège d'affronter Raphaël Nadal.
C'est le plus jeune joueur du top 8 à Roland, donc il a 19 ans, depuis Djoko en 2006. Et personne depuis Rafa en 2005 n'avait atteint les quarts pour sa première participation à Roland.
Ah non, c'est sûr, ça nous a fait du bien, ce gamin, de voir
petite anecdote, si me semble bien, c'est celui qui a gagné le Masters Espoir aussi.
Ouais, exactement.
Donc
exactement.
C'est vraiment un vraiment bon la relève italienne.
Allez, top 14 pour terminer.
Attends, tu nous coupes tout.
Qu'est-ce que tu veux ?
Tu nous coupes tout sur le tennis.
Féro.
Alors, il nous reste 8 minutes.
Oui,
Jean-Marc.
Mais on va quand même parler vite fait de Clara Burel, la Rennaise, qui elle aussi était une grosse surprise, qui a fait un très bon Roland-Garros en sortant au troisième tour. Tout comme, sur le coup, Caroline Garcia, la première française, elle est sortie par Svitolina. Mais ce n'est pas fini, puisque Caroline Féro, dernière française,
Fiona Féro,
a remporté le premier set 6-2. Et sur le deuxième, elle en est à...
Elle perd 5-2 et service à suivre pour Sofia Kenin. Donc,
il y aura un troisième set.
Il y aura sans doute un troisième set.
Et Kenin qui regarde ses pieds au moment de lancer la balle au service. Petite anecdote.
D'accord. Fiona Ferro qui sera la première française à l'issue de Roland-Garros.
Et petite anecdote sur Gaston, d'ailleurs, il ne fait jamais rebondir sa balle avant de servir. Donc, c'est très rare pour comparer à un Djokovic qui fait rebondir des tonnes de fois.
Et Nadal.
Comme ça va plus vite. Allez, top 14, l'affiche de la journée, Stade Toulousain, RCT, bande-annonce, nostalgie. Un peu plus fort. Voilà Antoine, merci. Donc le RCT indiscipliné, pris de vitesse en début de match, qui s'incline 39-19, sanctionné par le pied de Ntamack et la vitesse de Colby. Bon, il y aura une réaction avec les essais d'Equisiano et de Méric, mais malheureusement, soirée cauchemar pour les rouges et noirs du RCT qui repartent avec 39 points dans la besace. Et 3 blessés d'Ernest Vallon.
Et encore, ils sont relevés un peu en seconde mi-temps, parce que 25-0 à la pause.
Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Mais bon, la saison commence et c'est pas encourageant pour le rugby, puisqu'on a appris aujourd'hui que le Stade français allait passer 12 jours à l'hôtel en confinement, avec 9 joueurs atteints par le Covid. Comme on disait, il y a des sports où ça se passe très bien. Tu fais 3 semaines de Tour de France, il n'y a pas un cas. Et puis,
encore
en rugby... comme s'il en pleuvait.
Autre mauvaise nouvelle, la réélection de Bernard Laporte. Choquant.
Suis totalement d'accord.
C'est peut-être ça aussi qui nous a ramené la Coupe du Monde en 2023, Jean-Marc. Donc, des fois, il faut des brebis galeuses dans
le complot.
Dans ces instances. Bon, allez, il reste 5 minutes. C'est l'heure de jouer.
Juste avant, une toute petite
le marathon
chose à dire.
De Londres.
Le marathon de Londres avec le roi Eliud Kipchoge, qui n'avait jamais encore perdu sur marathon, qui s'est fait détrôner par Kitata. En 2h05, il gagne. Et alors, il s'est fait détrôner, mais il ne finit pas deuxième. Hein. Il finit huitième, donc il craque complètement au 37e kilomètre. Déjà au 25e, il se sentait pas bien du tout. Et au 37e, il est lâché par l'attaque de Kitata. Donc c'est, voilà, c'est
ça, ça coup, sprint,
tonnerre,
hein.
Ouais, coup de tonnerre. Coup de tonnerre dans le monde de l'athlétisme.
En plus, il avait pris Mo Farah comme lièvre.
Exactement. Et en fait, au départ, petite anecdote, c'était un duel prévu entre les deux plus grands marathoniens de toute l'histoire, qui sont... Kipchoge et Bekele, sauf que Bekele a déclaré forfait pour une gêne au mollet. Du coup, Kipchoge se retrouvait tout seul. Il voulait tenter le record du monde et voilà, il passe complètement à côté. Il finit en 2h08. Voilà,
bah,
le roi est tombé.
À New York, alors.
Exactement. Je te laisse pour le quiz.
C'est bon, Vincent ?
Nickel.
Allez, le quiz, Antoine, on va jouer.
Money time.
Chaque semaine, on se divertit. Chaque semaine, on se quiz.
Money Time.
Money Time, votre émission sportive tous les lundis de 19h à 20h sur Prune 92 FM et sur prune.net.
Allez, on a 5 minutes pour retrouver le nom de 5 arbitres. Alors j'espère que vous avez révisé, hein, parce que celle-là, normalement, elle est facile. Qui sont les deux arbitres français à avoir officié en finale de Coupe du Monde ?
Vautreau ?
Non. Non, non.
Quignou.
Non plus, il fallait... C'était les finales 38 et 58, hein, donc depuis... Okay. Non, vous ne les avez pas, alors c'était Georges Capdeville et Maurice Guigues.
C'est trop vieux.
Allez, plus proche de nous maintenant, quel arbitre français des années 70 était surnommé le Nijinsky du sifflet, en référence au danseur étoile
Roger
russe
Machin.
Pour sa... Gestuelle caricaturale.
Ah non, Wurtz.
Robert Wurtz,
exactement. Il faisait bien rire les joueurs. Hein. Un arbitre d'origine alsacienne. Bon, allez, celui qu'on cherche, tout le monde doit l'avoir, celui-là. C'est quel arbitre français se fait insulter par Thierry Roland de salaud à la suite d'un pénalty sifflé à la... dans le match France-Bulgarie 76.
Clément Turpin.
Monsieur Machin, vous êtes un salaud, non ? Personne
Roger
ne
Machin.
L'avait. Et Monsieur Foot, Yann Foot.
Michel Vautreau.
Ah, mais il n'est pas français, Monsieur Foot.
Ah, mais non, je ne t'ai pas dit français.
T'as dit si, t'as dit
quel
français.
Arbitre, français. J'ai dit quel français. Arbitre s'est fait insulter.
Quel arbitre français, t'as dit.
Colina.
Alors, maintenant, quel arbitre atteint d'une forme sévère d'alopécie était surnommé Kojak ?
Colina.
C'est bien. C'est bien. Et maintenant, on cherche... un acteur qui incarne un arbitre dans le film de Jean-Pierre Mocky, À mort l'arbitre.
Eddie Mitchell.
Ouais, c'était bien
oh
Eddie Mitchell.
Oh là là, mais...
pointu Jean-Marc là.
Bon ben voilà, on les a tous. Hein.
Alors moi j'ai des questions pour toi.
Oui.
Qu'a fait Charles-Georges Régnier Corver ?
C'est un arbitre.
Néerlandais.
Ouais. Non, je ne l'ai pas connu, celui-là.
Ah, aussi,
foot,
tu l'as connu. Aussi, oh, t'as brisé le cœur.
Ah, c'est celui, c'est pas celui qui aurait...
Ça, c'est français RFA, ça.
Oui,
qui aurait pas ciblé l'agression de Schumacher sur Batistan.
Et j'ai un autre arbitre pour vous. Il s'appelle Stupar Miroslav. Il est russe, donc soviétique à l'époque. Et il a fait quelque chose d'absolument incroyable... En 1982, dans un match où il a écouté une certaine personne pour changer sa décision. Vous vous rappelez pas de ce match qui se passait à Valladolid, où le cheikh, j'ai plus son nom, puis je m'en fiche, un Koweïtien était descendu sur le stade après le but de Maxime Bossis pour la France.
France-Koweït.
Et il avait fait changer le score en disant que si l'arbitre ne refusait pas le but, qui était tout à fait valable, eh ben, il repartait avec ses joueurs au vestiaire.
Ah ouais.
Le fait le plus original du foot. Et...
Ok, bah, y avait aussi un arbitre belge qui m'a brisé le cœur. C'est celui qui n'a pas vu la main de Vata lors de OM Benfica 90.
Et... Moi, j'ai un arbitre aussi, Jérôme Garcès. Arbitre
là,
français.
C'est du rugby.
Ouais, oui. Qui a arbitré la finale de la Coupe du Monde 2019 entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud.
Non, au rugby, ça arrive. En football, ça va être plus compliqué maintenant. Un arbitre au sifflet d'une finale de Coupe du Monde.
Bah, Clément Turpin.
Non.
Si, Clément Turpin.
Pas pour l'instant.
Pas encore.
On va attendre.
Encore.
Il n'est pas prêt encore.
Non, pas en finale, pardon. Mais il a arbitré
oui, en Coupe du Monde.
Voilà,
oui,
il a arbitré en Coupe du Monde, excusez-moi. Ouais. Exactement. Ouais.
Ok, bah on en a terminé pour cet épisode 5 de la saison 4. Oui, Vincent.
Moi, je voulais juste dire que c'était le début d'Octobre Rose. Donc, un petit coucou à toutes les femmes. Et puis surtout, bah, profitez-en bien dans les salles de sport, parce qu'il y aura pas mal d'actions.
Évidemment, c'est le soutien pour contre le cancer du sein. Voilà, hein, on ne les oublie pas. Action menée par Dames de Sport. Hein.
Tout à fait, principalement, mais il y en a d'autres dans d'autres.
Eh bien, c'est une cause entendue. Bon, bah, on vous dit à la semaine prochaine, même heure. À bientôt. Ciao, ciao.